Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Il n'est plus question aujourd'hui de passer une audition pour un film, et depuis que tout est spectacle, on parle volontiers d'un impressionnant casting pour une manifestation sportive ou d'une erreur de casting dans la formation d'un gouvernement. Casting. Terme de cinéma, le mot est à présent entré dans la langue française courante, comme s'est imposé au générique des films le poste de directeur de casting. La direction de casting, si elle reste l'une des professions de l'ombre du cinéma, est maintenant reconnue comme un métier à part entière et, comme l'écrit Dominique Besnéard qui l'exerça longtemps, s'il compte un peu, c'est bien grâce à Margot Capelier. C'est elle qui, en quelque sorte, a inventé le métier en France. Elle a été pendant de longues années la référence absolue, la reine Margot ou la papesse du casting, comme l'a surnommé les journalistes. En 1990, pour Mémoire du siècle, Cécile Amcy recevait Margot Capelier. Une petite dame, depuis disparue en 2007 à 96 ans, qui fut, pendant des décennies, une personnalité méconnue du grand public, mais pourtant incontournable, du monde du cinéma.
Mémoire du siècle, Margot Capelier, directrice de casting, par Cécile Amcy. C'est une petite bonne femme, comme on dit, pas plus haute que trois pommes, aux cheveux courts, bouclés, roux, de 80 ans aujourd'hui, qui change de couleur de voix sur les questions d'appréciation personnelle et ouvre un œil perçant sur celle professionnelle. Ce métier de directrice de casting, mot anglais qui signifie distribution des acteurs dans un film, qu'elle exerce depuis les années 50, après avoir été dans l'entourage de Jacques Prévert, Marcel Carné, Jean Renoir, lui a permis de travailler avec les grands noms du cinéma français et américain quand les films se tournaient en France. Margot Capelier, surnommée la reine du casting, vénérable institution auprès des metteurs en scène et des acteurs dont elle s'occupe, représente une mémoire du cinéma.
Je suis née à Paris, mais je suis née de parents d'origine russe et juive, ce qui reste, n'est-ce pas, pour le restant de vos jours, qui se sont connus, ce qui est le comble, à Paris.
Donc vous êtes née, vous, en quelle année ?
Je suis née en 1910, quoi.
1910. Alors, il y a une date importante, d'après ce que j'ai lu, dans votre vie, c'est le moment où vous rencontrez Jacques Prévert. Hein, on va démarrer de là ?
Oui, vaut mieux, parce que finalement, c'est là où j'ai appris des choses. Alors, j'ai commencé d'abord par rencontrer ce qu'on appelait à l'époque le groupe Octobre, qui était un théâtre d'agit-propre.
C'est-à-dire ?
Ça veut dire un théâtre révolutionnaire, mais sans appartenance au Parti communiste, naturellement. Il y avait beaucoup de gens de gauche et même des gens du parti qui disaient « Camarade, je suis pas d'accord, enfin, comme d'habitude. Oui. » Mais c'était tout à fait intéressant parce qu'il y avait des gens exceptionnels. Il y avait les frères Prévert. Ils sont indissolubles dans ma vie professionnelle, bien entendu. Il y avait aussi Marcel Duhamel, il y avait Jean-Paul Grimaud, il y avait des acteurs, et des acteurs en puissance, enfin, qui ont commencé là beaucoup. Mais il y avait Baquet,
Maurice,
avec qui je suis restée du meilleur bien, parce que d'abord il est resté, et c'est un garçon qui a un humour absolument extraordinaire. Et moi, sans humour, on peut pas vivre dans ce métier. Hein. Bon. Il y avait un monsieur qui s'appelait Marx Maurice, qui faisait de la synchro aussi, et il y avait Marcel Duhamel qui a fait la série Noire.
Oui. Il y avait aussi Roger Blin, je crois.
Roger Blin venait avec nous, comme ça, il est venu une fois jouer le tableau des merveilles, il était beau comme un dieu, il était extraordinaire. Il me foutait une trouille bleue parce que il parlait pas beaucoup, pour une raison très simple, c'est que il bégayait un peu, mais moi je m'en étais pas aperçue alors. C'est un jour où il m'a récité un poème, j'ai dit tu, et puis je me suis arrêtée, j'ai compris qu'il bégayait. Mais je m'en étais pas aperçue.
C'est passé ça, après.
quand il jouait, ça ne se sentait pas, mais dans la vie, quand il était ému, bégayé, il a dit une fois, à une fête qu'il y avait après la mort de Prévert, je saute, il a dit, mon tout a pris, ils m'ont pas appris à bégayer, ça je savais, mais ils m'ont appris l'amitié. Et ça, c'est important. Mais lui, c'était un grand monsieur.
Et c'était quoi, le Château des Merveilles ?
Ben, c'est une pièce de Cervantes qui avait monté. Alors, il y avait aussi un monsieur d'une importance considérable qui est mort, parce qu'ils sont presque tous morts, qui s'appelait Lou Bonin Tchimoukov. Son nom, c'était Bonin, mais comme c'était l'époque au cinéma où les Russes étaient à la mode, il s'était fait appeler Tchimoukov. Ce qui était très confortable, et tous les Ruskov lui parlait russe, alors qu'il ne parlait pas russe du tout, il était d'Avignon, et il avait un talent fou. Ça, c'est pour dire qu'il a inventé des choses qui ont servi très 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 longtemps après, presque même dans les cafés-théâtres, si vous voulez.
Cette rencontre avec Prévert et ce groupe de personnes, c'était en quelle année, avant la guerre ?
Oui, bien sûr. Je ne me rappelle pas, je crois que c'est 34 ou 35. Non, vraiment, je... Ça, c'est pas parce que je veux dire que j'ai pas de mémoire, c'est ridicule, mais je ne me rappelle pas vraiment, je crois que c'est 34. Vous savez, j'étais avec mon frère, un spectacle à la Mutualité, un spectacle révolutionnaire, où j'ai entendu des chœurs parler. Ce sont des poèmes que les gens disent ensemble. J'ai envoyé une lettre, et j'ai dit que je voulais faire partie du groupe. Alors, on m'a convoqué rue Mathurin Moreau, il y avait le siège de Toul, il y avait plusieurs groupes, il y avait le groupe Mars et le groupe Octobre. Enfin, moi, je voulais le groupe Octobre. Et on m'a mis dans un truc, je dis, bon, non, c'est moi, c'était d'une timidité que vous n'imaginez pas, je suis toujours, d'ailleurs, ça ne se voit pas.
C'est quoi la timidité ?
Ben, je crois que j'ai peur de moi-même, alors j'ai peur des autres. Ben, je crois que c'est parce que j'étais mal aimée quand j'étais enfant.
Oui.
Mal aimée, enfin je considérais que j'étais mal aimée. J'étais molle comme une chiffre, alors je me laissais tout faire. Alors, j'avais peur. J'avais peur, je savais rien foutre, alors, en plus. C'est toujours rien foutre. Alors, j'étais dans une pièce et j'ai dit d'une voix absolument presque inaudible, c'est pas ici que je vais venir. Et tout à coup, il y a un monsieur qui est venu, il m'a dit, c'est toi qui veux faire partie du groupe Octobre ? J'ai dit oui. On m'a amené dans une pièce où il y avait les Prévert. Ça, je m'en souviens, comme si c'était hier. Mais je ne savais pas qui c'était. Je ne suis pas sûre qu'à l'époque, Jacques savait vraiment qui il était. Il savait qu'il avait du talent, mais enfin, il avait déjà fait pas mal de choses. Il était déjà connu chez les surréalistes et chez plein de gens. Mais enfin, il était d'une modestie à toute épreuve. Ils étaient là. Et il y avait aussi un garçon qui s'appelait Jean Ferry, qui est un auteur dramatique et qui avait la goutte. Qui a écrit après des scénarios pour Clouseau, et après il y a plein d'histoires qui se greffent. Et ils m'ont dit, tu veux faire du théâtre ? J'ai dit oui, dans un murmure. Et il y avait aussi des femmes. Il y avait donc Gisèle Prévert, qui est la femme de Pierre. Et puis je ne me rappelle plus très bien qui était la femme de Jacques à l'époque. Je crois que c'est Simone Chavance. Qui est devenu Chavance après, parce qu'il y a eu des changements quand même, sur une route aussi longue. C'est pas si simple, la vie. Ils m'ont dit, bon, ben, tu feras Madame Doumergue dans le prochain spectacle. J'ai dit oui. Et on répétait dans une cave, rue du M, où quand j'y allais, je me prenais pour Jeanne d'Arc, parce que ça avait un côté clandestin. Et ça a commencé par la répétition d'une chanson, oh Fayot, 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 tu nous fais crever la peau, quelque chose comme ça. Je chante fou, comme c'est pas possible. Et j'avais perdu toute ma voix. Alors, pendant des jours, je suis venue répéter en murmurant. Ils sont habitués, quoi. Et j'ai joué, voilà. Un petit peu.
Oui.
Très peu.
Au moment de cette rencontre, vous aviez 24 ans, mais alors disons de 17 à 24 ans, qu'est-ce que vous avez fait ?
Oh, j'ai fait tous les... J'ai travaillé chez mon père où j'étais très malheureuse. Après, j'ai travaillé dans un syndicat. Enfin, ça, je ne voudrais pas raconter.
Non,
je ne veux pas. Je veux pas, c'est trop triste.
Quand vous dites que je travaillais chez mon père, qu'est-ce que vous
faites ? Ah ben, mon père, il était fabricant d'enseignes. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il était russe, mais il parlait français sans aucun accent. Aucun. Sauf quand il écrivait, il faisait des fautes d'orthographe. Alors je trouvais qu'il avait de l'accent. Il était très violent, très, très nerveux. Je crois aussi qu'il s'était marié par erreur avec ma mère. Alors c'était un peu difficile. Et on m'a fourré là pour que... apaiser les choses.
Mais c'est ce désir de faire du théâtre, il vous est venu à quelle époque ?
Quand j'étais petite, parce que...
C'est les libertés.
Je pensais même pas à ça. Je pensais que c'était beau de dire des vers. Moi, quand j'allais au théâtre, je pleurais, quoi. Je sanglotais au dernier rang de la Comédie française, en haut, dans les cintres, et je me suis toujours dit, quand j'aurai de l'argent, j'irai au premier rang. Et c'est la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est d'être au premier rang.
Donc alors, vous aviez envie de devenir comédienne, mais finalement, vous ne l'êtes pas restée comédienne. Vous avez commencé à jouer.
Attention, je n'ai jamais été comédienne. Au groupe Octobre, il y avait vraiment des gens qui étaient surdoués et qui ont fait ce métier. Je ne devais pas être... Si on est vraiment... Si on sait qu'on est doué, ça, alors j'en suis persuadée maintenant. Et ça, c'est l'expérience qui me dit, il n'y a pas d'entrave possible. On y va. Et pour ça, il faut être courageux. Moi, je n'étais pas courageuse. Comédien, c'est le métier le plus dangereux du monde. C'est vrai. Vous ne croyez pas?
Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Dangereux?
Dans ce cas-là.
Eh bien, parce que quand vous faites des études, par exemple, ou dans la vie, vous avez des notes. Là, non, il n'y a pas de notes. Non, non.
Non,
non. Non. Il n'y a pas de notes, c'est le public qui vous donne des notes. Et pour accéder au public, c'est tellement difficile et... Ça a changé, ça a beaucoup évolué. C'était un métier honteux, n'est-ce pas? Moi, je dis que depuis qu'on enterre les comédiens à l'église, m'excuse, ils ont beaucoup perdu. Parce que c'est devenu un métier bourgeois. Or, ça marche pas. Parce que c'est un métier de folie. De folie, de poésie, de choses inhabituelles. Il faut quand même dire des textes qui ne sont pas les vôtres. Parce que finalement... Dire son texte à soi, c'est une chose. On le dit mal, on le dit bien. C'est pas grave. On se débrouille avec les mots qu'on sait. Là, il faut dire les mots des autres. Il faut faire passer quelque chose qui, quelquefois, est inacceptable. Ouais, quelquefois, je vais au théâtre, je me dis, mais comment ils arrivent à dire ça? Mais comment ils arrivent? Alors là, je suis émerveillée. Et quand ils le disent bien, c'est comme un cadeau. Oh, pour être comédien, il faut savoir faire des cadeaux. Donc, il faut être quelque part aussi généreux. Mais il faut être super doué. Si on n'a pas un plus, il ne faut pas le faire.
Bon,
alors j'étais sûre que je n'avais pas le plus, probablement. Mais je me suis dit ça très longtemps. Parce que quand j'étais au groupe Octobre, Jacques nous est tourné. Alors, j'ai tourné dans Le Crime de Monsieur Lange, par exemple. Où je faisais... C'est vieux, ça.
Quand vous dites Jacques nous faisait tourner, en fait, Le Crime de Monsieur Lange, si ma mémoire est bonne, c'est un film de Renoir.
Oui.
Alors, quel rôle il avait Jacques là-dedans? Il avait fait quoi?
Mademoiselle. Il avait écrit le scénario et il y avait la moitié du groupe dans le film Le Crime de Monsieur Lange. Il y avait Becquet, il y avait Max Maurice, il y avait Marcel Duhamel. Il y avait Grimaud, il y avait Le Duc, je vais en oublier, je ne me rappelle pas s'il y avait Bussière, et il y avait les femmes du groupe, il y avait Suzanne Magisson, Catherine Prévert, qui à l'époque n'était pas Prévert, mais la femme de Loris, il y avait Fabien Loris, et il y avait moi.
Et il y avait vous, voilà.
Et je faisais une blanchisseuse. Et Renoir, qui était un monsieur absolument extraordinaire, il disait, c'est formidable, c'est parfait, c'est bien, vous êtes formidable, c'est merveilleux, mais on recommence. Moi, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Alors, on recommençait.
Et c'était une figuration, vous ne disiez aucun mot.
Ah, non, c'était un petit rôle.
Un petit rôle?
Ah, oui.
Vous vous souvenez de ce que vous dites?
Non.
Non?
Non. Mais ça devait être prêt, alors. J'ai travaillé avec Carnet, et ça a été la fin de ma carrière au cinéma, parce que qu'est-ce que j'ai pris? Je devais pas être très adroite. Mais alors, Carnet n'était pas très patient. Alors. Lui, il disait pas on recommence, il disait elle est con, celle-là, ou à peu près. Ouais. Pas elle est con, elle est bête.
C'était quoi? C'était le drame. Et qu'est-ce que vous faisiez là-dedans? Une figuration intelligente?
J'avais du texte.
Du texte?
Oui, oui. Ouais. C'est pas sorti tout seul. Ouais. C'était fini.
Pour vous?
Ah oui, pour moi, c'était la fin de ma carrière. Je ne voulais plus revenir le lendemain. Je ne savais pas ce que c'était qu'un raccord. Mais là, c'est comme ça. Alors, bon, j'ai joué au groupe, j'ai fait plusieurs choses. Je me suis beaucoup amusée. Ça me plaisait beaucoup. C'était très joli, il y avait des choses tout à fait étonnantes. Si je me souviens, et moi je ne pense pas du tout, vous savez, on dit en 1789 les choses étaient... Non, c'était vraiment... on avait des textes extraordinaires et un metteur en scène qui était un metteur en scène, qui d'ailleurs est devenu fou, enfin fou, enfin... qui est devenu mystique. Après, tout arrive. Comme il y avait toujours Jacques a dit, tiens, on pourrait peut-être mettre Margot... Mais que, alors, je voulais plus. Moi, Carnet, j'ai dit à Prévert, moi, Carnet, je veux plus jamais voir ce bonhomme. Jamais je le verrai. Et il m'a dit cette chose très jolie. Il m'a dit, Margot, c'est un petit métier. Un jour, tout petit, c'est toujours les mêmes gens. Un jour, peut-être, tu travailleras avec Carnet. Alors, tais-toi, parce qu'après, t'auras honte. Faut jamais dire, jamais. Je ne travaillerai avec ce monsieur. Donc, je ne l'ai plus jamais dit. J'ai pensé souvent, mais j'ai jamais dit.
J'ai toujours été un tact de Dieu. Et c'est en pure perte que ces émissaires, ces commissaires, ces prêtres, ces directeurs de conscience, ces ingénieurs des âmes, ces maîtres à penser, se sont évertués à me sauver. Même tout petit, j'étais déjà assez grand pour me sauver moi-même dès que je les voyais arriver. Je savais où m'enfuir, les rues. Et quand parfois... il parvenait à me rejoindre. Je n'avais même pas besoin de secouer la tête. Il me suffisait de les regarder pour dire non.
En 41, j'étais dans le Midi, parce que j'avais ça, parce que Prévert était là, j'étais là. Avec des amis qui m'avaient amené, parce que j'avais pas de sous. Et j'ai tapé les textes d'un scénario qu'avait fait Prévert pour Tino Rossi, qui s'appelait, pour Pierre Billon, qui s'appelait Le soleil a toujours raison.
C'est un beau titre.
Ah oui, c'était un beau titre. Le pauvre malheureux Tino, il était perdu au milieu de ces gens. Il avait ses copains l'ont amené. Ça se passait à la Colombe d'Or, ce qui était quand même pas très désagréable, n'est-ce pas? Ou comme c'était la production qui payait, mais il payait pas cher. Il me payait. J'étais secrétaire de Prévert, c'était soi-disant secrétaire de Prévert.
Oui, mais alors là, vous n'avez pas fait le lien. Alors, vous êtes passé de la figuration à secrétaire. Enfin bon,
j'ai tapé au groupe Octobre. Il y avait une secrétaire absolument admirable qui s'appelait Suzanne Montel, qui a fait un travail absolument extraordinaire et qui a tapé tous les textes la nuit, le jour. Enfin, c'était la fille la plus extraordinaire. Et de temps en temps, elle ne pouvait pas taper. Et moi, comme je disais que je savais taper, Jacques m'a donné une pièce.
À taper,
j'ai perdu. J'ai perdu l'original, oui. Et j'ai pas été foutu à la porte, voilà. Je veux dire quand même qu'il y avait un état d'esprit peu commun, parce que si maintenant je perdais un manuscrit original, je pense que j'aurais fini ma carrière avant de la commencer, n'est-ce pas? Bon. Donc là, pendant l'occupation, je savais toujours rien faire. Mais je savais un peu taper à la machine.
Non, mais c'est une coquetterie quand vous dites « je ne savais rien faire ».
Mais non, on ne m'a pas appris de métier, j'en ai pas appris, alors écoutez. Et on m'a appris à taper à la machine sur une machine qui n'avait pas les caractères. C'était sur... Je ne veux pas le raconter parce que ça me fait envie de pleurer encore. On m'a appris à taper sur un clavier où il y avait 3 rangs au lieu de 4, tu vois. Comment on peut faire ça à un enfant? Enfin, bon... Donc, je tapais quand même tant bien que mal. Pierre Billon écrivait « Le soleil a toujours raison ». J'étais pas loin dans le quartier. Enfin, j'étais avant ceux. Et on m'a fait venir pour taper le scénario de Billon, avec qui je me suis formidablement bien entendu, car il était très gentil. Et même une fois, j'ai déchiré une page de manuscrit. Je cherchais dans la corbeille, et ça, c'est vrai. Et il me disait « Mais qu'est-ce que tu cherches ?» Enfin, finalement, j'ai retrouvé la page qu'on a recollée. Il y avait loup dans le quartier, parce qu'il foutait là. On a recollé les trucs et j'ai pu retaper les pages, parce que pour avoir 3 pages officielle, enfin, nouvelle de l'auteur, c'est là où j'ai appris que l'écriture était probablement une des choses la plus difficiles du monde. N'est-ce pas? Bon, le pauvre malheureux de Rossi, à qui Prévert disait quelquefois qu'il n'était pas bon, il a dit une fois qu'il avait 3 octaves. C'était très joli, sur le banc de la Colombe. Ça, c'est comme si c'était hier. Puis il y avait des gens qui montaient, qui racontaient des scénarios. Alors on se marrait, il venait des producteurs. Enfin, il y avait le monde défilait voir Prévert. Et moi, je voyais le monde. Et après, je ne sais pas comment c'est arrivé. Je suis arrivée, alors que je n'avais pas le droit de travailler parce que j'étais juive, à être secrétaire de production sur un film de Delannoy qui s'appelait L'assassin à peur la nuit. Ça s'appelait comme ça. Et Delannoy était un metteur en scène tout à fait étonnant. À l'époque, enfin, je veux dire, très connu, très apprécié. C'était avant Éternel Retour, mais il a fait, pendant l'occupation, il a fait Éternel Retour. C'était avant, mais c'était un technicien très apprécié. Et il avait comme assistante Jacqueline Autry, qui est tombée malade. Parce que moi, j'ai tapé le texte du Soleil a toujours raison, parce que la script n'était pas libre. J'ai travaillé sur L'assassin pour la nuit comme secrétaire de production, alors que je n'y connaissais rien, et que j'ai appris à taper en cours de route, sur un clavier normal. Et là, il y avait Jacqueline Audry, et elle est tombée malade. Et elle m'a dit, vous allez faire le dépouillement. Moi, je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était. Alors, elle m'a dit, j'ai commencé, vous n'avez qu'à finir. Heureusement, elle a guéri vite, parce que sans ça, ça n'aurait pas duré non plus. Mais alors là, quand on est secrétaire de production, on tape les feuilles de service, on répond au téléphone, et finalement, c'est un poste qui n'est pas bien apprécié, mais quand on le fait bien, c'est formidable, parce qu'on est au courant de tout. Ça, alors, j'aime bien ça. Alors j'ai appris un tout petit peu des choses. En plus, je faisais rigoler Delannoy, ce qui quand même était... J'avais un succès d'estime extraordinaire dans l'équipe où il y avait un assistant qui était beau comme un dieu, qui s'appelait Calon, qui s'est tué en voiture, et une script qui s'appelait Chevillotte, je me rappelle encore, et tous ces gens étaient absolument charmants avec moi. Et Delannoy était tout à fait charmant avec moi.
Et qu'est-ce que vous faisiez pour le faire rire?
Je ne sais pas, et j'arrivais, il riait. Alors, quand il était de mauvaise humeur, il y a Calon, il disait, viens, viens. Alors je venais, et ça marchait, enfin, je ne sais pas. Ben, je dois avoir l'air, j'étais peut-être plus gay que maintenant.
Qu'est-ce que ça devait être?
Alors après...
L'Enfer du Jeu.
L'Enfer du Jeu, c'est un film qui, pendant l'occupation, a été refait, parce que c'était Stroheim qui était dans le...
Ça se passait pas à Paris, tout ça, ça se
passait
à Nice.
Stroheim était dans le film, avait un rôle important, et les Allemands, il a fallu refaire les scènes avec Stroheim, et c'est Renoir, Pierre Renoir, qui a refait le rôle de Stroheim, parce que il était interdit chez les Allemands. Alors après,
voilà.
Carnet est venu me voir, il m'a demandé de travailler dans Les Enfants du Paradis.
Comme secrétaire.
Parce que il tournait, pendant que moi je travaillais sur L'assassin à peur la nuit, il lui tournait Les Visiteurs du soir. Et mais comme j'avais rencontré avec Prévert la moitié de l'équipe, des gens qui... Personne ne savait qui venait, tu vois. Et au téléphone, je ne sais pas pourquoi, on passait toujours les communications. Alors, je disais, non, alors c'est pas moi, je vais aller voir à la régie, à l'autre régie. Donc là, j'ai récupéré toutes les gens de l'équipe. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est passé. Quand il est venu me voir, il m'a dit, est-ce que vous voulez travailler avec moi? Et j'ai dit, non. Il m'a dit, pourquoi? Je dis, parce que vous criez tout le temps. Et il m'a dit, moi, je dis jamais rien. Un quoi, moi, je dis jamais rien. Et j'ai travaillé dans Les Enfants du Paradis, naturellement, ça... Je pense que c'est Jacques qui a demandé. Lui, comme il a vu que j'étais au courant, il croyait que j'étais peut-être plus fut-fut que j'étais. Et Carnet m'a appris énormément de choses. Parce qu'il avait confiance. Mais j'étais comme une bête, vous comprenez. Vous ne savez pas ce que c'est que de voir construire un décor. Le décor qui était dessiné par Trotner, qui n'avait pas le droit de travailler, qui se construisait sur le terrain de la Victorine. Et c'était une époque où, ça je l'ai déjà raconté je crois, mais c'est extraordinaire, les ouvriers avaient des aimants pour récupérer les clous qu'ils redressaient pour pouvoir avoir des clous. Et il n'y avait rien, rien, il n'y avait pas de quoi bouffer, ça c'est une autre affaire, mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de matériaux. Et un jour sont arrivées de Paris les robes d'Arletty. Dans des tissus absolument mais somptueux, je ne sais pas si vous avez vu les Enfants du Paradis, oui, les robes sont restées absolument, c'est Maillot qui les avait dessinées. Et ils avaient, je crois que les robes avaient été faites chez Lambin, si je ne m'abuse. Enfin, quand c'est arrivé au milieu de cette pénurie de tout, c'était comme un miracle.
Magique.
C'était magique. Et c'est ça la magie du cinéma. Parce que, au milieu de toute cette merde, de cette guerre, de ces gens, il y avait les Italiens. Alors c'était... Moi, je suis restée jusqu'à temps que les Allemands arrivent. Après, je me suis tirée. J'ai accompagné Arletty à la gare. Parce qu'elle était formidable, elle était charmante, elle voyait bien que j'étais triste, et elle m'a dit, faut pas être triste, Margot, tout ça, ça va s'arranger. J'ai accompagné à la gare, je me sentais mal, je suis sortie de la gare. Un quart d'heure après, on arrêtait tous les Juifs. Et on m'a dit, t'es juive ? J'ai dit, oui. Comme s'ils ne le savaient pas. Alors je suis partie. Chez Renaud, là j'ai été rejoindre. Enfin, je me suis imposée chez un type qui m'a reçu qui s'appelle Renaud Jouvenet. Où j'ai. Voilà.
Qui c'est ce monsieur ?
Renaud Jouvenet, que j'ai connu avec le groupe Octobre aussi, puisque le groupe Prévert a amené le monde entier. J'étais recueillie là-bas, j'ai tapé aussi des textes. Taper à la machine, ça sert. Même mal.
Et alors, il était où, Renaud de Jouvenel ?
En Corrèze.
En Corrèze. Ouais. 44, Les Mystères de Paris. 45, Seul alors, dans la nuit.
Les Mystères de Paris, c'est formidable. C'est le vieux Baron Célé qui a fait Les Mystères de Paris. Et c'est, comment il s'appelle, cet acteur extraordinaire qui jouait Tortillard.
Et c'était Jean Carmet ?
Jean Carmet, qui jouait Tortillard dans Les Mystères de Paris, tourné par... moi je l'appelle le vieux Baron Célé, ben, je ne me rappelle plus de son prénom, d'ailleurs on ne l'appelait pas par son prénom, c'était un monsieur tout à fait charmant et il y avait des gens extraordinaires.
Il y avait aussi Barreau qui faisait partie du groupe Octobre.
Oui, non, il ne faisait pas vraiment partie du groupe Octobre, il avait joué une fois au groupe Octobre. Quand moi j'ai connu Barreau, il était chez Dulin déjà, il était déjà, on savait qu'il allait être un monsieur célèbre. Ça, tout le monde le savait. T'es beau comme un dieu.
Jean-Louis Barrault.
Oh, c'était... Parce que... Bon, il était chez Dulin, il a monté Autour d'une mer. Enfin, il a monté très très vite une pièce avant Numance.
Vous dites, on savait qu'il allait devenir célèbre. Alors, enfin, c'est des choses qu'on sent, vous, qu'on appelle la reine du casting, bon, mais, qui d'un coup d'œil, ça fait...
Minute Papillon, à l'époque, je faisais pas de casting. D'abord, ça n'existait pas. Oui. Les metteurs en scène faisaient leur casting eux-mêmes avec l'assistant.
Non, mais là, vous parlez
Non,
aujourd'hui.
Mais quand il était tout jeune, Barreau, il dégageait quelque chose de particulier. Donc... C'était plus un homme de théâtre qu'un comédien, je crois. Si j'ose avoir... Faut peut-être pas dire ça, parce que comme il a exactement mon âge, c'est pas la peine de le faire mourir d'un infarctus du myocarde.
Un homme de théâtre, c'est une belle expression.
Mais c'est un homme de théâtre. C'était un homme de théâtre tout à fait en avance et tout à fait charmant. Donc il a joué Numance, arrangé avec le groupe, parce qu'il y avait aussi Lou.
Il y avait Modo, il y avait Ducrot, et l'acteur qui jouait Lassner dans Les Enfants du Paradis.
Qui était un immense acteur, qui était surtout, il était aussi dans Les Visiteurs du Soir. Et c'était un acteur, c'était surtout un homme de théâtre, il avait un théâtre à Paris. Et c'est là où Carmet a joué au théâtre quand il était tout jeune. C'était extraordinaire, enfin, il y avait une réunion de gens. Il y avait Franqueur, il y avait, enfin, j'en oublie la moitié. Et il n'y avait que des acteurs formidables. Ça, cela dit, c'était un casting remarquable. C'est pas moi qui l'ai fait. Hein.
Mais je crois que j'ai lu que vous disiez d'Arletty qu'elle était l'une des plus grandes dames que vous ayez rencontrées.
Dans ma vie, oui. Peut-être, pour moi, c'est la femme la plus exceptionnelle que j'ai rencontrée dans ma vie. Parce que c'était une femme vraie. Je pense que la vie lui avait appris beaucoup de choses. Elle n'avait jamais eu, elle n'avait pas d'aigreur, elle était généreuse. Elle a été tout à fait charmante avec moi pendant les Enfants du Paradis parce qu'elle voyait que j'étais triste. Pour moi, c'est une reine. D'ailleurs, je crois que Prévert disait que c'était une reine, mais je crois moi aussi. Et je sais que j'ai expliqué une fois à Louzet la grandeur du mot populaire. La différence entre populaire et populacière. J'étais un foutu de lui expliquer, en anglais surtout. Je crois que je ne saurais pas l'expliquer en français non plus. Et comme exemple, je lui ai dit, vous voyez, Arletty, c'est une femme populaire dans le sens admirable du mot, et en même temps, c'est une reine. Et toutes les quarts d'heure, il m'appelait, il me disait, l'osait, il disait, Margot, expliquez-moi la différence entre populaire et populacière. Et c'est le seul exemple que j'ai trouvé, parce qu'elle avait une espèce de grâce, de grandeur, de beauté, et puis une façon de dire les textes. Elle a fait un commentaire qui s'appelle Paris la Belle, où je crois qu'il y a comme phrase la rue de la guerre, la rue de la peine ne s'appelle pas la rue de la guerre, et elle traîne sur guerre, et c'est tellement beau en soi, c'est que le texte est joli, mais en même temps elle le dit d'une telle façon que ça devient sublime. Pour moi, c'est une des plus grandes actrices et en même temps une des femmes les plus admirables que j'ai jamais rencontrées. On ne peut pas être généreux sur une scène ou à l'écran si quelque part on n'a pas quelque chose non plus. Et même ceux qui sont terribles et qui sont quelquefois durs et méchants, du moment qu'il y a une certaine générosité dans la méchanceté, ça ne fait rien. Là où c'est impossible d'être acteur et d'être mesquin. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que je les aime.
Donc alors, à quel moment vous devenez directrice de casting? Après la guerre, vous rencontrez des Américains qui vous bombardent de ce titre. On oui. dit que c'est vous qui avez inventé ce métier.
J'ai rien inventé.
En France.
Comme ça n'existait pas, on dit que j'ai inventé, j'ai rien inventé du tout.
Ça existait aux USA.
Mais ça, et en Angleterre, dans tous les pays anglo-saxons, il y a des castings. Il y avait des castings. Il n'y avait pas un film qui se faisait sans casting. En France, ça n'existait pas.
Mais toutes ces dates-là que vous avez notées, elles sont toutes importantes pour vous?
Bien sûr que c'est important, puisque c'est comme ça que j'ai gagné ma vie. Vous êtes marrante, vous. Alors, j'ai d'abord été secrétaire de production. Après, j'étais régisseur adjoint. Après, j'étais régisseur général.
Et quand j'étais... Régisseur général où? Dans quel film? Pour quel film?
Que je regarde. Là, par exemple, en 52, j'ai travaillé avec Litvak, hein, Anatole Litvak, qui m'a énormément aidée. Lui, il était américain, je me suis occupée de la figuration. Et encore, les gens principaux qui s'en occupaient, c'était Sidney Chaplin qui s'occupait de tous les Américains qui étaient à Paris, parce que c'était une histoire où il y avait la fin de l'armée américaine qui résidait à Paris. Donc j'ai travaillé avec Sidney Chaplin, qui était assistant, et qui, lui, comme assistant, il habitait au Georges V.
Ce film s'appelait Act of Love.
Alors là, j'étais régisseur adjoint, déjà. Ouais. Après, Mon cœur est chez les riches, c'était avec Diamant Berger, j'étais régisseur général. Et là, je faisais le petit casting, ça veut dire, s'il y avait des petits rôles, je donnais des idées, mais naturellement, c'est toujours le metteur en scène qui choisit. Alors là, en 54, là est arrivé quand même quelque chose de... Il est venu une émission, une série télévisée qui s'appelle Capitaine Galant de la Foreign Légion. Alors là, il y avait 39 courts-métrages d'une demi-heure, enfin pas courts-métrages, 39 films pour la télévision.
Téléfilms
en anglais. Alors excusez-moi du peu. Tout ce qui respirait en anglais a travaillé dans le film. Mais à l'époque, moi, quand on me disait « je parle anglais », je les croyais. Je ne peux pas dire que mon anglais soit subtil et génial. Mais là, j'ai appris, alors là, je m'en suis plus. Je faisais venir des gens d'Angleterre et d'Italie. Personne ne savait que moi. Là, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Et on travaillait dedans des acteurs qui sont de très grands acteurs, mais ça permettait aux gens, à l'époque, de gagner un peu de sous. Et c'était tellement infantile que ça a eu un succès énorme.
C'est seulement passé à la télé américaine.
Ah oui, oui, oui. Oui.
Un succès énorme.
Énorme, énorme. Et notre vedette, c'était Buster Crabbe, l'ancien champion olympique de natation. Et lorsqu'il est arrivé à Paris, il avait son fils qui tournait avec lui, qui s'appelait Coffey. Et il trouvait tout bien à Paris, sauf qu'il manquait 2 cm au bassin de Molitor pour être un bassin olympique. Ça le gênait pour faire sa natation.
Et c'est là qu'en fait vous avez commencé à vraiment faire du casting.
Non, j'ai commencé plus là, tu vois.
Out of Love.
Oui, j'ai commencé quand même à
essayer.
Oui, là, Crime et châtiment, Trapèze, là j'ai fait du casting.
Oui.
Seulement, comme j'étais, il n'y avait pas de titre officiel, alors on me mettait sur mes feuilles de paie, j'ai toujours régisseur général.
D'accord. Trapèze, c'était... C'est
un film avec Sœur Carol Reed. Excusez-moi du peu. D'accord. Qui était formidable. Et on a tourné 4 mois au Cirque d'hiver, dans des baraquements. Alors ça, je peux vous raconter des histoires extraordinaires. Alors, il y avait des vigiles au Cirque d'hiver. Ils laissaient rentrer tout le monde. 3 personnes, ils ont... ils les ont empêchés de rentrer. Un, c'était Esch, qui hurlait « Margot, dites-leur que c'est moi qui paye ». Il disait ça en british, bien sûr. DiMaggio et Anthony Quinn. Voilà. C'est beau, non? Alors moi, je peux vous dire que devoir descendre Lolo Brigida, Tony Curtis, Burt Lancaster, l'escalier en collant et les voir répéter, c'est une des choses les plus extraordinaires que j'ai jamais vues de ma vie. C'était d'une beauté rare. Et Carol Reed, avec qui j'avais très peu de conversation, il m'avait à la bonne. La preuve, c'est qu'une fois où il n'avait pas bu d'eau, il est monté chez moi au 4e étage. Il y avait mon mari, mon fils qui était tout petit. Pas de lumière dans l'escalier, puisque j'habite dans les halles, un immeuble pourri.
Toujours.
Toujours, oui. Voilà. Et donc, il devait m'aimer bien, puisque dans... N'ayant pas bu d'eau, c'est chez moi qu'il est monté. Mais comme il était très anglais, quand j'ai vu le lendemain, il était très gêné et moi je me marrais comme une folle.
Pendant l'occupation, vous vous êtes mariée?
Non, je me suis mariée après.
Donc vous avez rencontré,
rencontré
un des hommes de votre vie ou l'homme de votre...
Alors, le père de mon enfant m'a sauvé la vie pendant l'occupation et nous avons fait un enfant pendant... voyage surprise où il était décorateur et où je suis allée le voir parce que j'ai travaillé pendant le film et j'ai accouché sur un film de Carné qui s'appelle La fleur de l'âge et qui n'a jamais vu le jour parce que le producteur a été défaillant. Et où il y avait Anouk Aimée, Paul Maurice, Serge Reggiani. Pour les rôles principaux.
Alors votre fils est professeur de philosophie,
mais mon fils est absolument formidable et mon fils sait des choses que moi je ne sais pas. Et ça, ça me fait plaisir. Et j'avais très peur qu'il fasse ce métier, mais peut-être que c'est ça qu'il a... avait envie de faire, parce que j'en sais rien. Ça a dit, le métier de cinéaste est tellement dur et tellement difficile qu'il faut vouloir le faire vraiment soi-même. C'est un choix. En général, les gens de cinéma sont plus instinctifs que... Enfin, il y en a quelques-uns quand même qui ont la connaissance. Mais à ma connaissance, pas beaucoup ont la vraie connaissance.
La vraie connaissance, oui. pas la culture, pas cette espèce de...
La culture, je ne les connais pas tous, alors je ne sais pas. Mais je sais que quand on m'explique quelque chose et qu'on sait très bien ce dont on parle, je comprends ce qu'on me dit, mais quand on ne sait pas très bien ce dont on parle, je ne comprends rien. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui suis faible du côté de la tête ou c'est eux qui sont faibles du point de vue de l'élocution et de la connaissance. Ce qui est horriblement désagréable dans les métiers de création, c'est que les gens fassent semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. Il y a des gens extrêmement cultivés au cinéma, et il y en a qui ne savent rien, ça ne les empêche pas de faire très bien les choses.
Qu'est-ce que vous faites là, Margot ?
Je regarde un peu les Français avec qui j'ai travaillé, faut quand même pas oublier, non ?
Ben justement, on dit, ou vous avez dit en tout cas, que c'est Jacques de Raye pour qui vous avez fait votre premier casting après ces Américains.
Oui, je crois. Ça veut dire qu'avant, peut-être, j'en avais fait, mais je ne sais pas dans l'ordre. Alors, moi, j'ai quand même travaillé avec des gens à qui je dois beaucoup. Avant, quand même, j'avais travaillé avec Marc Allégret, où j'avais trouvé un enfant pour papa, maman, mon fils et moi, ou quelque chose comme ça, où j'avais trouvé un petit garçon absolument superbe, avec un mal fou. C'est le chef de publicité de la Warner qui m'a dit un jour, écoute, je connais le petit garçon, ses parents voudront pas et il est caractériel. Et je lui ai dit, où est-ce qu'il habite? Il m'a dit, à Boulogne. Et je lui ai répondu, t'as rien à Casablanca. Et quand même, il m'a donné l'adresse et je suis rentrée. Et en général, avec les enfants, comme ça, au bout d'un certain temps, j'arrive à avoir un contact. Ça a duré 1h30. Le petit ne voulait pas dire un mot. Et si vous pouvez rêver d'un personnage quand vous rentrez, si vous avez pensé que l'enfant serait fait d'une certaine façon, ce petit garçon était exactement ça. Exactement. Il n'a pas voulu dire un mot et quand je suis sortie, il m'a tiré sur ma jupe que j'avais courte à l'époque et il a dit, mais dans un souffle, je veux le faire. Je veux le faire. Hein? J'ai dit, mais il faut apprendre à parler plus fort. Et Marc Allégret, qui avait sorti le gosse, il lui avait fait faire des dessins. Il avait un appareil à sous chez lui, vous savez, comme il y a en Amérique, là. Mm-hmm. Il jouait à l'appareil à sous, mais j'en avais, mais ras les marguerites. Et quand on est arrivé sur le tournage, Marc a donné un viseur au pied. Il lui a dit, puisque c'est toi qui sais le mieux, tu vas montrer aux autres. Il était exceptionnel, ce. Et 20 ans après, il m'a téléphoné. Il m'a dit, je vais vous voir parce que vous êtes mon meilleur souvenir. Là, j'ai vu que, malheureusement, ça n'avait pas suivi. Enfin, il faisait quelque chose qu'il n'aimait pas. Mais ce gosse, il était heureux pendant ce temps parce qu'il était un peu caractériel parce qu'il avait peur de son père, je crois. Il avait une mère qui ne devait pas être heureuse, mais elle avait des yeux violets extraordinaires. On voyait bien dans les yeux qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond dans sa petite tête. Et le gosse était formidable. Et il y a un autre môme, dont je ne peux pas citer le nom parce qu'il est devenu un monsieur célèbre, qui m'a dit, vous savez pas ce que vous m'avez fait. J'avais 6 ans. Et vous m'avez fait faire un casting et vous m'avez pas pris. Il s'en rappelle encore. Il est devenu metteur en scène.
C'est quoi le cinéma? C'est une passion?
Ça ne peut pas être autre chose qu'une passion parce que le cinéma, quand il est bien fait, c'est magique. Et la magie, quand elle ne vous fait pas peur, quand ce n'est pas atroce, c'est formidable. C'est magique. On ne peut pas expliquer pourquoi c'est beau, pourquoi on a vu des films qu'on n'oubliera jamais. Pourquoi on a vu un comédien qu'on n'oubliera jamais. Parce que peut-être une fois, deux fois, trois fois, il a fait quelque chose qui était tellement au-dessus de quelque chose. C'est un rêve, c'est comme un rêve. Pour moi, c'est un rêve. Comédien, c'est une magie. Et moi, j'aime la magie.
Alors, de ces comédiens, il y en a quelques-uns que vous avez découverts ?
Ah non, moi, j'ai découvert personne. Non. On découvre jamais personne. Ça, il faut le savoir. Les gens qui... Sauf les enfants. On découvre pas les enfants, on les trouve, parce qu'ils existent. On découvre jamais personne, parce que quand on commence de parler d'un acteur, ça veut dire que beaucoup de gens l'ont vu. Pour le moment, peut-être qu'il n'est pas prêt aussi. Il y a une question tout à fait délicate. C'est que les gens, quand ils commencent, ils ont des choses à dire, des choses à faire. Ils ne sont pas toujours adroits. Mais il y a comme une espèce de réserve qui sort. Toujours la magie, la magie, la magie. Et vous vous dites, ah, celui-là, il n'est peut-être pas prêt, mais quand il va être prêt, ou celle-là, ça va être formidable.
Alors, prêt, prêt, ça veut dire quoi? Il n'est pas prêt.
Prêt avec soi-même. Parce que d'abord, si on ne sait pas qui on est, on ne peut pas jouer.
Le métier de comédien, c'est le plus beau métier du monde?
Pour moi, oui. Peut-être parce que, bah, vous, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens pour qui la philosophie, c'est le plus beau métier du monde.
Non, je pensais que, bon, les comédiens, vous les connaissez, vous en côtoyez, vous les voyez quand ils débutent. Mais au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que c'est pas, ça ne devient pas ritournel, leur façon de jouer?
Quand ça devient ritournel, je les plains beaucoup. Mais quand ils sont immensément doués, même qu'ils font la petite ritournelle pendant un certain temps, après quand même ils doivent réfléchir un petit coup, ils ritournellent plus et en viennent aux sources, ils redeviennent ce qu'ils étaient, des grands.
Comment vous expliquez ce désir qu'ils ont, de vous qui les avez vraiment côtoyés, de devenir, ce désir qu'ils ont de devenir comédien, acteur?
Mais d'abord ils font pas de confidence et j'aurais jamais demandé pourquoi. Les jeunes que je vois, ils pensent tous qu'ils sont super doués, qu'ils sont formidables. C'est beaucoup plus délicat que ça, parce que le cinéma, les médias surtout, on fait des comédiens, au lieu de leur laisser leur mystère, ont essayé de les rendre plus présents. C'est l'erreur monumentale de la chose. Il faut rêver à un comédien, c'est pas la peine de l'entendre parler, parce qu'ils savent pas toujours parler. Mais finalement, c'est un métier nombrilique. Je pense que tous les métiers de création sont des métiers nombriliques, où la personne la plus importante, même s'ils ne le disent pas parce qu'ils sont modestes, comme on dit, avec un M majuscule, c'est eux. C'est leur peau. C'est eux qui sont en jeu, complètement, et en danger. Vous avez déjà été à des premières? Vous pensez pas qu'ils vont au lion? Vous pensez pas que c'est le dernier métier de gladiateur?
Je sais pas, j'ai vaguement l'impression que tout le monde a l'air d'être prévenu dans le sens où d'avoir un préjugé favorable, au fond. C'est l'impression que j'ai.
Non, mais écoutez, vous écoutez pas aux portes.
Non.
Ou alors vous êtes sourdingue, vous allez chez un otorino. Parce que moi, je vous dis quelque chose. Si vous allez à une première et si vous regardez les gens, ils savent d'avance. Si vous dites c'est de la merde, comme ça, en gros, dis, mais est-ce que vous l'avez vu? Ils vous disent non. Je dis, ben, pourriez peut-être regarder avant de faire. Je ne dirais pas une opinion, mais un sentiment. Écoutez, il y a des gens qui croient en Dieu, il y a des gens qui croient au cinéma. Si vous voulez que je vous dise, ça, c'est pas la même chose, mais quelque part, ça doit se rejoindre, non?
Et de quoi vous avez été la plus fière? De quel travail que vous avez fait? De quelle collaboration vous avez été la plus fière?
J'étais contente, en ne sachant rien faire, de travailler avec des gens qui savaient. Et ils sont quand même assez nombreux, et je ne peux que leur dire merci. Pas pour leur faire de la lèche, rien à voir. D'abord, je ne citerai pas de nom. Mais j'ai travaillé avec quand même des gens qui étaient assez formidables et qui faisaient des choses qui me soufflaient.
Les comédiens que vous connaissez tout.
Bah, en général, les jeunes comédiens, moi, je les ai vus travailler.
Voilà, au théâtre, dans les cours.
D'abord dans les cours. Vous citez 10 fois le nom d'un comédien. Personne ne vous écoute. Et tout à coup, vous citez le même nom. Peut-être la concierge du metteur en scène, peut-être un copain a vu quelque chose à la télé, ou peut-être quelqu'un d'ailleurs les a rencontrés. Tout à coup, le nom, c'est comme la calomnie. Le nom s'enfle. Mais c'est parce que la fille ou le garçon, ils ont fait le boulot. Ça s'enfle jamais pour rien. Ça s'enfle quelquefois trop tôt, et là est le danger. Pour eux. Pour personne d'autre, parce qu'une fois, quand ils sont bien, c'est bien, mais quand ils sont pas bien, on les replonge dans le trou.
Le cinéma a changé, les conditions de production ont changé, on ne fait plus le même cinéma aujourd'hui qu'on le faisait, ne serait-ce qu'il y a 20 ans.
Attends, mais on fait, à mon avis, enfin, il me semble, qu'on fait un cinéma où d'avance on fait les concessions. Les seuls films qui sont réussis et qui en plus marchent, ce sont des films qui ont été faits, bien faits d'abord, et avec amour, même si dedans il y a des défauts, même si dedans c'est pas tout parfait, il y a une continuité chez le metteur en scène avec les acteurs qu'il avait autour de lui, de forcer les choses et de faire ce qu'il aime lui. C'est un métier de création, et si on enlève la magie de tout ça, et c'est pas l'argent qui fait tout, c'est pas vrai.
Et comment Zinman pense à vous pour faire le casting de Julia ?
Ah ben, parce que j'avais travaillé avec lui avant, dans Vint le jour de la vengeance, mais je crois que c'est Troner qui m'a aidé pour ça. Toujours le groupe, là. Troner était aussi au groupe. Alors, je crois que c'est Troner, en fait, je sais pas. Puis, comme j'étais la seule à l'époque à faire du casting en France, quand les étrangers venaient, ben, comme il y avait personne d'autre, ils me demandaient.
Il n'y en a pas tellement.
Il disait que j'étais la meilleure, j'étais toute seule, mais depuis que je suis plus toute seule, ils disent plus que je suis la meilleure. C'est embêtant.
Mais il y a qui d'autre en France? On ne peut pas dire que ce soit une profession très répandue.
Quoi? Il y en a, je crois, 80 sur le livre.
Ah oui, qui s'occupe aussi de télé, un peu tout. Vous vous êtes occupé, vous, de télévision?
Je vous dis que j'ai fait deux séries avec Jean-Pierre Marchand, que j'ai adoré faire.
Enfin, deux séries sur toute cette ensemble, oui, sous cette
général,
filmographie.
Oui, mais c'est pas mal. Comme... Oui, mais... C'est long, vous savez.
Il y a peut-être des gens maintenant plus spécialisés dans la télévision, ça vous le savez?
Je ne sais pas. Moi, il n'y a pas de spécialisation. Les acteurs, c'est des acteurs.
Enfin, Margot, vous savez très, très bien qu'il y a des acteurs qui sont plus des acteurs de télévision et des acteurs qui sont...
C'est pas juste, parce qu'il y a... C'est ce que disent les metteurs en scène, mais c'est pas juste. Il y a des grands acteurs et des acteurs qui sont un peu moins grands. Voilà. Et si on avait des scénarios bien foutus, on pourrait quand même demander pour des rôles qui ne sont pas les premiers rôles, des acteurs de grande qualité. D'ailleurs, à la télévision, il y a des acteurs de très grande qualité. Moi, je vais vous expliquer, je suis arrivée à un point où, malheureusement, je ne peux plus solliciter. Alors, il faut qu'on me sollicite. Alors, c'est un peu plus délicat, parce que... En plus, y a plein de gens nouveaux qui sont là, qui sont intéressants, et qui font formidablement bien leur boulot. Alors, place aux jeunes, n'est-ce pas?
C'est-à-dire que c'est un métier où il faut tout le temps être sur la brèche, voir le maximum ça veut dire, de spectacles.
Ça, je vois les spectacles, mais il faut aller voir les gens, il faut faire des choses que je n'ai jamais faites de ma vie parce que j'en ai pas eu besoin, pas parce que je suis mieux que les autres, mais j'en avais pas besoin. Mais maintenant, c'est pas comme ça que ça marche.
Là, il y a toute une série de photos épinglées derrière vous, dans votre bureau. Bon, il y a Jacques Prévert. Il y a aussi une photo de... Une carte postale des jours de fête de Tati. Et en dessous, il y a Brigitte Bardot avec sa superbe poitrine.
J'ai travaillé dans un film où il y avait Brigitte Bardot quand elle a débuté, enfin, qu'elle débutait. Et pour moi, c'est un personnage qui me... Pour moi, c'est une comédienne exceptionnelle qui n'est pas restée assez longtemps pour prouver qu'elle pouvait être exceptionnelle sur la longueur. Et pour moi, quand on dit que Brigitte Bardot, c'est pas une comédienne, ça me met dans une colère noire. Parce que je trouve que c'est une comédienne. En plus, marcher comme elle marchait et comme elle marche encore, c'est exceptionnel. Je me souviens qu'un jour, j'étais au studio de Boulogne et je vois une fille qui sort du studio d'en face, parce qu'il y avait encore les deux studios, avec un petit tailleur puce. Je me souviens encore de la couleur, des grands cheveux dans le dos. Je savais quand même que Bardot tournait en face. Et je me dis, mince, qui c'est cette merveille? Et j'ai couru comme une folle et c'était Bardot. De dos, elle était exceptionnelle. Non, c'est une fille qui avait absolument des qualités, tout à fait, une grâce absolument. Moi, je vous dirais que peu de gens peuvent prétendre au doux nom de comédien ma sœur, comme dirait Pépère. Et que les gens qui sont des vrais comédiens sont des gens qui sont exceptionnels et qui ont un plus. Ça ne se voit pas tout de suite, mais cela... Il faut les respecter, il faut attendre. Il faut attendre parce que quelquefois, il y a des emplois tardifs. Hein? Mais cela dit, si on n'est pas un plus, alors je suis désolée, il ne faut pas le faire. C'est trop difficile et le plaisir n'y est pas.
Et mais ce plus-là, la personne, enfin le comédien, l'élu en quelque sorte, le sait, le sent en lui-même.
Mais de tous les gens qui viennent me voir, ils pensent tous qu'ils ont un plus. Un moins, personne n'est jamais venu me voir. Et moi, je ne suis pas assez grande pour pouvoir juger. Alors, là, Monsieur Klein, j'ai adoré. Et j'ai aussi adoré travailler dans Julia parce que j'aimais beaucoup le scénario. Je ne fais pas un métier glorieux. Je travaille avec des gens glorieux. Et malheureusement, ça ne s'attrape pas. Tiens, une fois, j'ai dit à Prévert, si je me mets sur ta chaise, est-ce que tu crois que ça s'attrape? Il m'a regardé, mais ça avait toujours l'œil qui sortait. Il m'a dit, essaye. Je suis restée sur ma chaise. J'ai aussi bien fait parce que ça n'aurait rien changé. Et c'est sans aigreur, hein. Je dis pas, je suis pas aigre.
Vous êtes une cheville ouvrière, c'est ce que vous voulez dire?
Je sais pas si ça s'appelle une cheville ouvrière. Je sais pas ce qu'on est. Non, mais je voudrais bien le savoir. Je voudrais bien pouvoir parler avec mes collègues et qu'ils me disent sincèrement. Mais eux, ils pensent qu'ils sont d'une importance considérable. Alors c'est embêtant. Et moi, je pense que non.
Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi.
J'ai rencontré dans ma vie plusieurs personnages tout à fait exceptionnels quand même, et qui ne sont pas des metteurs en scène, qui sont déjà absolument exceptionnels. Alors moi j'ai rencontré d'abord un producteur qui s'appelait Borcon, qui était absolument mais génial, qui a fait l'affaire Blaireau d'Alphonse Allais, tournée par Yves Robert, et il appelait ça l'affaire Blaireau d'Alphonse Alain. Et celui qui faisait... Il appelait l'adoption, je veux dire l'adaption. Au lieu de dire l'adaptation. Et l'adoption avait été faite par Ferry, qui était mon copain du groupe Octobre, qui avait la goutte d'ailleurs, et qui est venu, il était rouge. Et il est rentré dans la bureau, comme disait... Donc d'abord, il m'a donné la scénario à lire. Il m'a dit, vous la lisez, Madame Margot. Vous la lisez, Margot. Et vous me la dites, qu'est-ce que vous la pensez? Alors, j'arrivais pas à lire, parce que quand vous rentrez dans une production, il y avait le directeur de production, il s'appelle Pierre-Laure Laurent, qui est un monsieur qui m'a aidé au-delà de toutes les possibilités du monde, à m'aider à devenir régisseur et tout ça, parce qu'il m'a aidé beaucoup, c'était formidable, et moi j'arrivais pas à lire. Alors il revient, il dit, alors, vous la répondez pas au téléphone, et vous la lisez tout de suite. Alors bon, je la lis tout de suite, je marque comme une folle. Il appuyait sur son... On pouvait rentrer dans son bureau, mais c'est lui qui commandait l'entrée et la sortie. Alors il appuie sur son truc, je rentre et je lui dis, oh, vous savez, moi je ne connaissais pas cette histoire d'Alphonse Allais et je la trouve tout à fait extraordinaire. D'abord c'est drôle, j'ai ri comme une folle, et en plus c'est poétique. Et il m'a répondu, faut la jamais dire que c'est poétique, parce que poétique ça ne gagne pas d'argent. Là-dessus arrive Ferry, rouge, avec des charentaises, la goutte. Bon, très content de me voir, il me dit, qu'est-ce que t'es là, qu'est-ce que tu fous? J'ai dit, je me marre comme une folle. Parce que c'est vrai, ce monsieur était très joyeux, avec ce langage extraordinaire. Quand même, il avait trouvé l'histoire d'Alphonse Alain tout à fait extraordinaire. Il rentre dans la bureau, il ressort, il fout son scénario dans le poubelle, puisqu'on parle comme ça dans la maison, et dit, je ne travaillerai jamais avec quelqu'un qui appelle Alphonse Allais, Alphonse Alain. Et il n'a pas fait l'adoption. Et il avait fait une thèse sur Alphonse Allais à la Sorbonne, tout simplement. Ah, joli, hein, mon histoire.
C'était « Les mémoires du siècle » de Margot Capelier, par Cécile Amcy. Mixage, Mario Campo Longo. Réalisation, Noureddine Sanouni.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 6 mai 1990. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.